L'heure du journal d'Antoine Mercier. Bonjour Antoine.
Bonjour Olivia, bonjour à tous. Le sommet de l'Organisation de la coopération islamique réunie à Istanbul condamne la décision du président Trump sur Jérusalem. Le président palestinien Mahmoud Abbas estime que les États-Unis n'ont plus de rôle à jouer dans le processus de paix. Analyse dans un instant avec Nabila Hamel. Donald Trump qui essuie une nouvelle défaite politique dans l'État américain d'Alabama. Le candidat qu'il soutenait a été battu par un démocrate. Commentaire d'Éric Biegala dans cette édition. En France, les trois médiateurs qui sont chargés de sortir le gouvernement de l'impasse dans le dossier de Notre-Dame-des-Landes remettent en ce moment leur rapport à Édouard Philippe, le Premier ministre. Une décision définitive sur la construction ou non de cet aéroport doit intervenir au plus tard en janvier. Précision de Véronique Robérotte. Trois syndicats de France Télévisions appellent aujourd'hui à une grève pour défendre l'honneur du service public. C'est une allusion aux propos prêtés au président de la République sur l'audiovisuel public. Honte de la République, suivie d'Abdelhak El Idrissi. La responsabilité pénale de l'ancien ministre Jean-Jacques Urvoas, susceptible d'être engagé après les révélations du Canard enchaîné, selon lesquelles il aurait envoyé une note confidentielle de la direction des affaires criminelles et des grâces au député Thierry Soler sur une enquête le concernant. Précision d'Antoine Marette, l'invité de la séquence interview, François-Michel Lambert, député La République En Marche des Bouches-du-Rhône. Et dans la dernière partie de la grande table, Olivier Lesbert.
Nous, on va chercher une place pour l'homme, un peu coincé, ballotté entre deux utopies contemporaines, le post-humanisme d'un côté et l'animalisme de l'autre. On va chercher une troisième voie avec notre invité, le philosophe Francis Wolff, qui sera donc avec nous à partir de 12h55.
Ouverture donc à Istanbul ce matin de ce sommet extraordinaire de l'Organisation de la coopération islamique consacré à la décision américaine de reconnaître Jérusalem comme capitale de l'État d'Israël. Sans surprise, la Turquie a exhorté la communauté internationale à reconnaître Jérusalem-Est comme la capitale d'un État palestinien. Le président turc Recep Tayyip Erdogan rappelle que Jérusalem est une ligne rouge, qu'il ne renoncera jamais, dit-il, à exiger une Palestine souveraine et indépendante. Et sur un même registre, eh bien, le président palestinien Mahmoud Abbas accuse Donald Trump d'avoir offert Jérusalem en cadeau au mouvement sioniste. Il estime que les États-Unis n'ont maintenant plus aucun rôle à jouer dans le processus de paix. Nabila Hamel, bonjour.
Bonjour.
Parole très forte, on le voit donc ce matin, mais pas de décision attendue en principe à ce sommet.
Oui, il y a eu une condamnation ce matin et un rejet de la décision de Donald Trump par l'OCI, qui appelle également tous les pays à reconnaître la Palestine comme État. Le roi de Jordanie s'est élevé contre tout changement de statut de Jérusalem. Le président palestinien Mahmoud Abbas parle de l'initiative américaine comme d'un grand crime qui bafoue le droit international et risque de transformer le combat politique en combat religieux. Le dirigeant palestinien demande d'ailleurs une résolution du Conseil de sécurité de l'ONU pour déclarer nulle et non avenue la décision américaine. Il affirme, vous le disiez, d'ailleurs avec le président turc, que Jérusalem-Est restera pour eux la capitale de la Palestine. Alors, quels effets peuvent avoir ces paroles fortes à l'avenir? En convoquant et en consacrant le sommet de l'OCI à la question de Jérusalem, Recep Tayyip Erdogan espérait plus que des déclarations de réprobation ou de condamnation des dirigeants arabes. Il voudrait unifier le monde musulman derrière une ligne ferme face à la décision des États-Unis. Mais l'exercice s'avère difficile car si l'Arabie saoudite a à un moment été un moteur de l'organisation pan-islamique, elle a en ce moment d'autres priorités, un autre agenda et d'autres partenaires qu'elle tient à ménager. Les États-Unis de Donald Trump sont aux yeux de Riyad un allié sérieux pour endiguer l'ennemi numéro un de l'Arabie, qui est en ce moment l'Iran. Dans une moindre mesure, c'est aussi un agenda que partage Israël. Il sera donc difficile pour un pays musulman aussi important que l'Arabie saoudite d'aller dans le sens d'Ankara. La Turquie, pays de l'OTAN, aura-t-elle plus de poids face à Donald Trump? La Turquie avertissait en forme de pique aux autres pays musulmans que sa politique a toujours été claire, nette, sans zigzag, et qu'elle ne changera pas d'opinion ni de position.
Merci beaucoup Nabila Hamel. Les débats se poursuivent donc à Istanbul. On salue l'invité de la dernière partie de la Grande Table, le philosophe Francis Wolff. Bonjour.
Bonjour.
On va parler de votre livre tout à l'heure, qui traite notamment de l'utopie cosmopolitique. Vous le direz ce dont il s'agit, mais cette utopie semble particulièrement difficile à mettre en œuvre et en particulier peut-être à Jérusalem.
Oui, dans cette région du monde, utopie particulièrement difficile à mettre en œuvre, vous avez tout à fait raison, les docteurs rêvent de cosmopolitisme, les peuples semblent vouloir ériger des murs. Cela dit, qui n'est pas ému en pensant à Jérusalem ? Qui n'est pas ému en pensant justement à cette ville-monde qui incarne l'idéal cosmopolitique ? Je parle de la ville, je parle des langues, des peuples, des religions qui s'y croisent et qui sont en tant que telles en bonne entente. Le problème, ce n'est pas le cosmopolitisme, le problème, ce sont les États. Et c'est peut-être ce dont nous parlerons tout à l'heure.
Merci beaucoup Francis Wolff pour à la fois cette réponse sur Jérusalem et l'introduction que vous avez apportée pour la dernière partie de la Grande Table où nous vous retrouvons pour parler de votre livre. La victoire du démocrate Doug Jones à la sénatoriale partielle d'Alabama face au conservateur républicain Roy Moore est une très mauvaise nouvelle pour le président américain. Elle pourrait augurer d'une vague démocrate aux élections parlementaires de mi-mandat de novembre prochain, faire perdre aux républicains peut-être le contrôle d'une voire des deux chambres du Congrès. Si les démocrates en tout cas devenaient majoritaires au Congrès, eh bien ils pourraient peser sur le programme de réforme du président, bien sûr, mais seraient peut-être aussi en mesure de déclencher les procédures d'impeachment à son encontre. Éric Biegala, bonjour.
Bonjour Antoine.
Bon, il faut quand même mesurer le risque réel pour Donald Trump aujourd'hui.
Oui, mesurer, hein, c'est le mot qu'il faut employer. C'est un risque qui est encore mesuré pour le moment. On est loin d'un renversement complet de majorité dans les deux chambres, et pour ce qui est d'un éventuel impeachment, ce serait une majorité des deux tiers qu'il faudrait aller chercher. C'est quand même beaucoup plus difficile qu'une petite majorité. Mais ce qui est clair, c'est qu'avec une majorité au Sénat maintenant réduite à une seule petite voix, Donald Trump voit sa marge de manœuvre franchement réduite. Alors Doug Jones, le nouveau sénateur démocrate, donc de l'Alabama, ne devrait pas siéger avant janvier, ce qui normalement laisse à la Maison-Blanche le temps de faire passer quelques textes de loi phares de la présidence Trump, tels que la réforme fiscale. Après, à partir de janvier, ce sera beaucoup plus tendu. Les futurs projets de loi de l'administration Trump auront sans doute davantage de mal à passer. Il est tout à fait possible en effet que sur certains textes les plus controversés, deux ou trois voix de sénateurs républicains puissent faire défaut. Et ça avait déjà été le cas hein, lors des premières tentatives pour abroger l'Obamacare. Par exemple, en juillet dernier, le camp républicain n'avait pas réussi à rassembler plus de 43 votes. Mais pour Donald Trump, la gifle de cette consultation est aussi très sévère concernant sa propre personne. Sa cote de popularité depuis quelques mois tourne autour des 35% d'opinion favorable. Mais là, ce sont des sondages. Hier, il s'agissait d'un vote qui, en Alabama, état ultra-conservateur, un rouge profond, comme on dit aux États-Unis, rouge c'est la couleur des républicains, a vu un vote républicain pour Moore, c'est-à-dire pro-Trump, réduit à une véritable portion congrue, un petit 48% des électeurs qui s'étaient déplacés, avec une participation à 40%, cela fait un vote pro-Trump qui ne dépasse plus les 25%.
Merci Éric Biegala. Un léger apaisement encore de la tension entre les États-Unis et la Corée du Nord. Le secrétaire d'État Rex Tillerson propose l'ouverture de discussions directes entre les États-Unis donc et Corée du Nord, sans condition préalable cette fois. 12h39, qu'on sorte enfin de ce bourbier, c'était le cri du cœur ce matin de la députée République En Marche Barbara Pompili, anciennement Europe Écologie Les Verts, et un cri qui traduit bien l'état d'esprit de la nouvelle majorité face à ce projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Trois médiateurs étaient chargés de sortir ce dossier de l'impasse et ils remettent en ce moment leur rapport à Édouard Philippe avant une décision définitive promise par le chef de l'État au plus tard, au mois de janvier, Véronique Rebérotte. Donc ce rapport vient d'être rendu, qu'est-ce qu'il y a dedans ?
Alors, on ne le sait pas encore. Il n'a pas été rendu public. Ce que l'on sait, c'est qu'il ne tranche rien. Il évoque, en revanche, le réaménagement de l'actuel aéroport de Nantes Atlantique. Ça, c'est nouveau. Avec des estimations à la hausse du nombre de passagers. 9 millions en 2040 contre 5 millions aujourd'hui. Jamais jusqu'à présent, ce réaménagement de l'actuel aéroport n'avait été documenté de façon officielle. Les médiateurs ont chiffré, en fait, combien coûterait un nouvel aéroport et le réaménagement de l'actuel aéroport. Eh bien, réaménager serait moins coûteux si l'on s'en tient seulement aux travaux, entre 415 millions et 545 millions d'euros, quand le coût de construction de l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes serait évalué, lui, à environ 561 millions d'euros. Sauf que Vinci, bien sûr, qui exploite déjà l'actuel aéroport, pourra demander aussi des dommages et intérêts, des dommages évalués à 200-280 millions d'euros. À ce moment-là, réaménager deviendrait plus cher que de construire, à condition, bien sûr, que le budget des travaux ne soit pas dépassé. Pour ce qui est du bilan carbone, eh bien, avantage là aussi au fait que Notre-Dame-des-Landes ne soit pas construit puisque son bilan carbone serait supérieur à Nantes Atlantique. Le nouvel aéroport émettrait 12% de CO2 de plus sur 20 ans d'exploitation.
Alors en quoi ce rapport peut-il aider le gouvernement finalement à sortir du bourbier, pour reprendre l'expression utilisée par Madame Pompidou ce matin?
Alors en tout cas, le réaménagement, c'est nettement l'opportunité à saisir. Emmanuel Macron et surtout son ministre de l'écologie, Nicolas Hulot, l'avait bien entendu à l'esprit avant de commander ce nouveau rapport. Réaménager, bien sûr, plutôt que bétonner. Un choix qui serait raccord d'ailleurs avec le positionnement d'Emmanuel Macron depuis hier, leader mondial de la lutte contre le réchauffement climatique. Mais quelle que soit la décision du président de la République, elle sera bien sûr vivement critiquée, périlleuse, forcément un déni de démocratie si l'État enterre Notre-Dame-des-Landes, puisque consultation il y a eu, et la population s'est exprimée pour la construction de Notre-Dame-des-Landes à 55%. Ce sera quand même plus facile à argumenter que d'aller déloger les zadistes en cas de construction de Notre-Dame-des-Landes, une évacuation redoutée depuis la mort du militant Rémi Fraisse sur le barrage de Sivens. Et puis, si le projet est abandonné, il faudra bien sûr quand même aussi gérer ces zadistes qui ne comptent plus quitter les lieux, pas simple non plus, mais effectivement le bourbier est là. Enfin, il y a Nicolas Hulot. Restera-t-il s'il est désavoué sur un projet qu'il n'a jamais défendu? Emmanuel Macron pourrait peut-être avoir envie de lui faire plaisir.
Merci beaucoup Véronique Robérod pour ces premières appréciations. On est en ligne avec l'invité de la séquence interview, le député La République En Marche des Bouches-du-Rhône, François-Michel Lambert, bonjour.
Bonjour.
Qui est aussi membre de la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire. L'option donc de l'aménagement, du réaménagement, je ne sais pas comment il faut dire, de l'aéroport existant, est-ce que ça vous paraît maintenant celle qui est dans les tuyaux? On a le sentiment d'entendre ce qu'on vient d'entendre et par ailleurs les premières déclarations du Premier ministre.
Ouais, j'espère.
C'est votre choix en tout cas.
C'est mon choix. Je suis élu depuis 2012 avec Barbara Pompili, François de Rugy. Nous n'avons eu de cesse d'exprimer la nécessité de regarder l'option Nantes-Atlantique, c'est-à-dire le réaménagement de l'aéroport, au vu des nouvelles technologies et dans une réalité d'aujourd'hui, pas dans des modèles anciens. Il semblerait que le rapport le confirme. Vous avez vous-même rappelé que le nouvel aéroport Notre-Dame-des-Landes, ce serait beaucoup plus de carbone, et encore, je pense que c'est sous-estimé, avec les pertes des terres arables et des marécages. Donc on ne peut pas, au lendemain du sommet mondial, raconter que nous allons lancer un aéroport, alors que les réponses technologiques nous disent, sur celui d'aujourd'hui, c'est possible.
Alors, il y a ceux qui s'y sont pour quand même, par exemple Jean-Marc Ayrault encore ce matin, mais aussi Guillaume Pelletier, par exemple des Républicains, qui disaient il y a l'état de droit aussi, il y a un référendum qui a eu lieu avec une majorité pour. Est-ce que vous pensez que ça ne sera pas un peu compliqué de revenir sur cette décision démocratique?
Il y a trois choses à dire. D'abord, le périmètre du référendum. Ensuite, le dossier, il n'y avait jamais eu clairement, par un canal officiel, déposer l'option réaménagement de l'aéroport. Donc l'électeur est allé en se disant « c'est une utopie des écolos ». On voit qu'aujourd'hui les écologistes ont peut-être quelques réponses qui ne sont pas du tout utopiques, mais celles de l'avenir. Et enfin, là c'est le politique qui va vous répondre. À un moment donné, on prend nos responsabilités et effectivement, il y a eu un référendum, mais il y a d'autres éléments qui apparaissent. Et je pense qu'un politique n'est pas une machine à appuyer sur un bouton, c'est quelqu'un qui tient compte des réalités et donc on dépasse ce référendum.
En un mot, le rapport des médiateurs préconise l'évacuation de la ZAD dès la décision gouvernementale. Finalement, quelle que soit la décision, vous êtes d'accord?
Oui, alors évacuation, ça veut dire, c'est pas du jour au lendemain, on rétablit l'ordre dans ce périmètre. Par contre, il y aura 6 mois, appelons un chat un chat, il y a une centaine de personnes irréductibles, je préfère même dire, qui n'ont pas du tout le sens du lieu et du système, mais qui sont là plus pour chercher des ennuis et en profiter pour exister. Il va falloir les gérer et éviter tout drame. Mais il y a tout à rebâtir, tout un système, parce que ce territoire autour de Notre-Dame-des-Landes, il y a quand même des cicatrices à mettre, des plaies qui doivent cicatriser, pardon. Et ça ressemble beaucoup à ce que nous avions en 81 sur le plateau du Larzac. Et je pense qu'on pourrait mettre en œuvre un haut fonctionnaire chargé sur plusieurs mois d'aider à reconstruire une société de droit.
François-Michel Lambert, merci beaucoup. On vous retrouve dans un instant pour parler plus généralement peut-être d'aménagement du territoire. On évoque maintenant les turbulences dans l'audiovisuel public. Nous sommes au lendemain de l'adoption par 84% des journalistes des rédactions nationales du groupe d'une motion de défiance à l'encontre de Delphine Ernotte, la dirigeante de France Télévisions. Il y a 3 syndicats de France Télé qui appellent par ailleurs aujourd'hui à une grève pour défendre l'honneur du service public. C'est un appel qui fait suite à des propos prêtés au chef de l'État qui avait qualifié l'audiovisuel public République, de honte de la République. Tout indique en tout cas, Abdellah Khaled Drissi, que l'audiovisuel public va bien connaître dans les semaines, les mois qui viennent, de grands bouleversements.
Selon les trois syndicats qui appellent à la grève, la réalisation d'économies n'est qu'un prétexte pour asphyxier l'entreprise. Selon eux, l'épisode actuel dans lequel se trouvent France Télévisions et bientôt les autres entreprises du secteur n'est que la première étape du Big Bang promis par l'exécutif. Une étape qui consiste à affaiblir les entreprises avant de faire passer une réforme douloureuse pour les salariés. En septembre dernier, le gouvernement demande au groupe de l'audiovisuel public de faire 80 millions d'euros d'économies, dont 50 chez France Télévisions et 20 à Radio France. Sauf que ces deux entreprises sont déjà engagées dans des plans d'économie, baisse de la masse salariale, baisse des budgets dans les rédactions, renégociation de contrats. En déficit, Radio France vise un retour à l'équilibre en 2018 et chez France Télévisions, le contrat d'objectifs et de moyens 2016-2020 prévoit déjà une diminution des effectifs. Ces économies supplémentaires viennent donc fragiliser un peu plus les entreprises concernées. Dans le même temps, le paysage politique semble converger vers une réforme d'ampleur concernant le financement et le périmètre futur de l'audiovisuel public. On retrouve au Sénat, à l'Assemblée nationale et au sein de l'exécutif les mêmes termes, synergie, économie, rapprochement. La semaine dernière, une membre du CSA confirmait qu'à court terme, le secteur devait s'attendre, je cite, à des larmes et du sang, mettant en cause des décennies de sclérose. Cette réforme est attendue pour l'automne 2018. En attendant, l'exécutif n'a pas forcément intérêt à avoir un front commun entre salariés et patrons des chaînes publiques. Vu ce qu'il se passe chez France Télévisions, on en est encore loin.
Les débats à l'Assemblée sur les nouvelles règles d'accès à l'université, la nouvelle plateforme Parcoursup, qui doit remplacer donc sous peu la controversée APB, permettra, selon la ministre de l'Enseignement supérieur, de passer d'un traitement de masse par algorithme à un principe simple et juste. Chaque université traitera donc la demande d'inscription de manière personnalisée, répondra au vu des attendus, compétences requises pour être admis dans la filière souhaitée, des attendus publiés hier par le ministère au niveau national, qu'ils ont appelé à être précisés à Kim Kasmi par chaque université selon ses spécificités.
Oui, hein, c'est la publication par le ministère hier soir. Les attendus est censé donner un cadre national pour toutes les universités. Eh bien, certaines d'entre elles pourraient bien en profiter pour refuser certains bacheliers. À Strasbourg, par exemple, le nombre de places a été limité. Résultat, par rapport à l'année dernière, il manque des places en psycho, en informatique, en maths, mais surtout en STAPS 167. Le nombre est significatif. Hein. Une situation qui pourrait bien se reproduire dans d'autres villes, comme à Caen, par exemple, où le seuil de capacité maximale a été fixé dans toutes les filières. Il ne prévoit pas de marge supplémentaire, alors que la hausse démographique est très importante, 40 000 étudiants de plus au niveau national cette année en France. Ces mesures permettent aussi aux universités de limiter artificiellement le nombre de places, ce qui doit leur permettre, par exemple, de sélectionner les candidats de terminale sur dossier, alors que la loi le prévoit uniquement en ultime recours. Du coup, ce sont surtout les bacs pro et technologiques qui seront les plus pénalisés, notamment dans les filières sélectives, comme STAPS, où il est demandé par exemple d'avoir fait obligatoirement des sciences durant son parcours au lycée, ce qui n'est pas forcément le cas d'un bac pro. Pour compenser, les syndicats avaient demandé à ce que les expériences professionnelles ou encore des diplômes, comme le BAFA, puissent être comptabilisés pour pouvoir accéder à ces filières. Or, la ministre de l'Enseignement supérieur et le rapporteur l'ont refusé, estimant ces mesures trop coûteuses et indiquant qu'elles pouvaient être discriminantes par rapport à ceux qui, par exemple, n'avaient pas le BAFA.
Hakim Kasmi, spécialiste des questions d'éducation, merci beaucoup. Le Canard enchaîné affirme ce matin que le socialiste Jean-Jacques Urvoas a envoyé, alors qu'il était encore garde des Sceaux, une note confidentielle de la direction des affaires criminelles et des grâces à Thierry Soler, député Les Républicains à l'époque, aujourd'hui La République En Marche, sur une enquête qui le concernait. Note transmise donc entre les deux tours de la présidentielle qui aurait été retrouvée sur le téléphone du député lors d'une perquisition à son domicile, et selon le parquet de Nanterre, eh bien, l'ancien ministre de la Justice, donc M. Urvoas, est susceptible maintenant de voir sa responsabilité pénale engagée, Antoine Maret.
Effectivement, alors remettons-nous dans le contexte du moment. On est entre les deux tours de la présidentielle. Thierry Soler, qui vient de la droite, pense qu'il a des chances de faire partie d'un futur gouvernement sous Emmanuel Macron. Mais depuis 8 mois, une enquête préliminaire le vise pour fraude fiscale, blanchiment et trafic d'influence. Il demande donc au garde des Sceaux de l'époque, le socialiste Jean-Jacques Urvoas, qui est l'un de ses proches, où en est le dossier judiciaire le concernant. Le ministre de la Justice se renseigne et lui envoie une note dans laquelle il détaille les investigations le concernant, prenant soin d'utiliser la messagerie cryptée Telegram. Sauf que Thierry Soler conserve le document sur son smartphone et c'est ainsi que les enquêteurs ont retrouvé cette note fin juin lors d'une perquisition à son domicile. L'information a été confirmée au Canard enchaîné par le parquet de Nanterre qui a transmis le dossier au procureur général à la Cour de cassation. Les avocats de Thierry Solaire ne contestent pas les faits, mais ils les justifient. Le ministre a envoyé un message qui, de façon neutre et objective, citation, confirme l'existence du contenu de l'enquête en cours, d'ores et déjà rendu public par les révélations dans la presse. Jean-Jacques Urvoy, pour le moment, garde le silence. Il pourrait être poursuivi pour violation du secret professionnel devant la Cour de justice de la République.
Merci Antoine Marette. Retour vers notre invité, donc François-Michel Lambert, député de La République En Marche des Bouches-du-Rhône. Ce soir à Cahors, dans le Lot, Monsieur Lambert va s'ouvrir cette conférence nationale dite des territoires. Peut-être un mot sur la philosophie générale du gouvernement en matière d'aménagement du territoire ?
Ouais, tout à fait. Je pense que la démonstration de ce qui est sur Notre-Dame-des-Landes, c'est celle qu'on doit appliquer dans tous les territoires. Les élus sont habitués à faire des beaux, grands projets tout neufs avec un ruban tricolore et à le couper avec beaucoup de presse. Ben, ce temps est révolu. Je crois que depuis 150 ans, la France s'est bâtie des infrastructures, s'est bâtie des moyens qui aujourd'hui sont sous-exploités et à l'aune de la révolution numérique, à l'aune de nouvelles approches technologiques, il y a peut-être à se poser de la question de mieux utiliser nos ressources déjà disponibles, une route, un pont, des bâtiments publics, etc., etc., que d'en rajouter, sans cesse, qui gaspille de l'argent public, gaspille du foncier, gaspille des ressources.
Une question de Jules Dequis qui est à vos côtés.
Oui, on comprend votre position sur Notre-Dame-des-Landes, hein, avec ce positionnement d'améliorer l'existant. Voilà, le recul sur Notre-Dame-des-Landes, sur ce grand projet, est maintenant une option envisageable. Elle l'a été pour le barrage de Sivens, quid du tunnel Lyon-Turin, du grand contournement ouest à Strasbourg. Il y a aussi le site d'enfouissement des déchets à Bure. Il y a beaucoup de grands projets comme ça qui nous semblent presque maintenant anachroniques quand les consciences écologiques ont germé. Comment concrètement le politique peut suivre aujourd'hui ?
Effectivement, la question est très judicieuse. Les grands projets qui ont été pensés 20, 30, 40 ans, certains sous Pompidou, qui ne sont toujours pas aboutis, je crois qu'il faut avoir l'honnêteté, nous les politiques, de tout remettre à plat, de reprendre le temps. Ce sont des projets sur un siècle d'usage. Donc on peut bien se donner le temps nécessaire. Et un par un, évidemment, on ne va pas tout arrêter. C'est pas ce que nous devons dire. Mais Notre-Dame-des-Landes est la démonstration qu'on peut se poser la question sur ces grands projets que vous avez cités.
Et on est à un point d'achoppement, selon vous, si l'option de l'aéroport Nantes-Atlantique est validée, si c'est la piste qui se confirme, est-ce que ça veut dire que sur tous les autres, il va falloir reculer ou que ça va devenir ingérable politiquement, localement, sur le terrain ? C'est la fin des grands projets et que des gestions de petits projets désormais ?
C'est pas la fin des grands projets, je me méfie des formules toutes prêtes, mais c'est le re-questionnement de tous les projets. Nous sommes ici à World Efficiency Solutions, c'est-à-dire une conférence qui présente toutes les solutions très novatrices et notamment celles dans les data, dans les données qu'apportent des grands opérateurs mondiaux, on va citer Microsoft notamment, qui nous disent avec les data aujourd'hui, nous pouvons utiliser deux fois mieux ce qui existe déjà. Donc avant de réfléchir, de lancer des nouveaux projets, travaillons à mieux utiliser ce qui existe. Et ça, c'est le monde nouveau qui s'ouvre.
La data remplace la data, si je puis utiliser
ce excellent. C'est excellent.
Bon. Ah bon ? Donc, est-ce que vous pouvez nous dire quand même, Monsieur Lambert, si le fait qu'on ne puisse plus penser globalement, malgré tout cet aménagement du territoire, ce n'est pas un peu la fin d'une politique par définition globale de l'aménagement du territoire ?
C'est tout le contraire. Il va falloir aller aider, on a 36 000 communes, 13 régions dans l'Hexagone, encore une centaine de départements. Il va falloir aller aider les collectivités à sortir de ce qui font leur sel, leur existence, je suis même un peu dur avec les élus, leur idéologie, des grands projets, ce que je disais tout à l'heure, des grands rubans tricolores, les ingénieries dans les territoires n'ont pas encore pu intégrer ces révolutions qui se comptent en mois, c'est même plus en années. Les choses vont extrêmement vite et donc au contraire, il y a tout à la fois ou en même temps, puisque c'est le terme usité, à renforcer la présence des services de l'État qui arrivent à capter ces révolutions et en même temps de les transmettre et de faire que les acteurs dans le territoire avancent. Et je pense que ce que nous devons avoir comme modèle, c'est la contractualisation, c'est-à-dire l'État avec les collectivités volontaristes lâche des moyens financiers en termes de nouvelles formes d'investissement sur cette approche et fera bouger ceux qui ne bougeront pas, malheureusement, avanceront moins vite que ceux qui auront contracté avec l'État.
François-Michel Lambert, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous, Jules Dequisse, ainsi qu'à Thomas Robin pour la liaison technique. Un temps à nouveau perturbé sur l'ensemble du pays. Des températures cet après-midi de 5 à 13 degrés. Édition réalisée avec Yacine Bouzard. Le prochain journal, 18h, Aurélie Kiffer.